Alors, le musée des Beaux-Arts est installé dans des bâtiments anciens. Il s'agissait du palais des archevêques. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de ce site avant de commencer à proprement parler par le musée. Et pour ça, je vais vous montrer quelques plans. Alors, il y avait à l'origine un premier palais pour l'archevêque construit au VIe siècle, dont il ne reste aucune trace aujourd'hui. Et on en a construit un second au XIIe siècle. Alors, le second, en fait, se cache derrière. Il est en retrait là-bas. On pourra faire jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Il se trouvait juste derrière. Ça, c'est au XIIe siècle. Alors, je vais vous montrer un plan de la ville au XIIe siècle, par exemple. Vous avez ici un carré avec une avancée demi-circulaire. Il s'agit des remparts du IVe siècle, qui ont été construits au IVe siècle. Et dans ces remparts, dans l'angle sud-ouest, on a installé le quartier cathédrale ici. Donc la cathédrale et le palais de l'archevêque qui a été construit, celui dont je vous parle maintenant, au XIIe siècle. Donc vous voyez, il est à l'intérieur des murs et adossé à ceci, juste ici. Certains d'entre vous ont-ils déjà suivi une visite générale? Non? Bon. Très rapidement. Il y a eu plusieurs enceintes à Tours. Sur ce plan, on a retracé toutes les enceintes successives. Ici, vous avez en vert le rempart du IVe siècle. Vous reconnaissez son avancée demi-circulaire. Bon, il y a eu différentes enceintes par la suite. Et on a réalisé au XVIIe siècle cette dernière enceinte, ici en jaune, beaucoup plus grande. Si bien que tous les murs qui se trouvaient à l'intérieur de cette dernière enceinte sont devenus inutiles et on les a, dans la plupart des cas, supprimés, puisqu'ils cloisonnaient l'espace inutilement. On les a donc supprimés, et on a notamment supprimé ce mur-ci. Je reviens au gros plan pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé. On a supprimé ce mur. Et on a utilisé les fondations du rempart du IVe siècle comme fondation d'un nouveau palais. Alors, on va examiner ce bâtiment sur la gauche. Vous avez peut-être remarqué une différence entre le bâtiment qui se situe à gauche et puis celui qui est devant nous. Une différence de style. Dans le prolongement de ce bâtiment, vous devinez une tour là-bas. Vous voyez ? Alors cette tour, c'est un vestige considérablement restauré du rempart du IVe siècle. D'accord ? Donc c'est la tour de l'angle sud-ouest. On devrait apercevoir une portion courbe, une portion de mur courbe sur la gauche. Regardez, sur votre droite, on l'aperçoit là-bas. Vous voyez ce mur courbe ? Bon, c'est un mur médiéval, mais il reprend le tracé exact de ce rempart. Je passe sur les détails. Et on a donc devant nous, à la place du mur du IVe siècle, deux bâtiments. L'un du XVIIe et l'un du XVIIIe. Et on a construit ces bâtiments sur les fondations de l'ancien rempart du IVe siècle. D'accord ? Bon. Quand on descend dans les caves de ce bâtiment, on peut apercevoir et on peut étudier les fondations du rempart du IVe siècle qui existent encore. Au XVIIe siècle, on a donc décidé de construire un nouveau palais et il occupait toute la longueur entre la tour d'angle sud-ouest et le mur qui est là-bas. Et au XVIIIe siècle, le nouvel archevêque a décidé de remplacer le palais du XVIIe siècle par un palais plus à la mode, un palais du XVIIIe siècle. Au début, il projetait d'abattre complètement le palais du XVIIe, et en fait, il n'en a abattu qu'une partie. Ce qui explique pourquoi on a gardé cette aile. Alors, vous voyez sur cette partie XVIIe, un pavillon central avec deux pavillons latéraux. Donc on peut se dire qu'il y a quand même une certaine symétrie. Eh bien, en fait, le pavillon latéral de droite, ici, était à l'origine le pavillon central. Il était beaucoup plus grand. Vous voyez une différence d'ailleurs dans le traitement de la toiture des deux pavillons latéraux actuels. Donc le pavillon latéral de droite était le pavillon central et il avait pour pavillon latéral, si je puis dire, ce qui est aujourd'hui le pavillon central. D'accord ? Voilà, donc il était gigantesque. Et on l'a remplacé au XVIIIe siècle par celui.
Mais alors, c'était uniquement dans le but d'avoir un palais plus moderne ?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Et pourquoi il en a... Pour ça avec une moitié ? Une question de moyens
ou... Eh bien, ça se fait au fur et à mesure... Enfin, bon, on peut observer ça un petit peu partout, c'est des règles générales. On a à peu près le même exemple pour la cathédrale. Quand on décide de remplacer un édifice par un autre, il y a plusieurs parties... Plusieurs projets, et ces projets évoluent au fil des années, voire des siècles, si bien qu'on obtient des résultats comme celui-ci. Mais à l'origine, il aurait pu entièrement disparaître. Puis bon, on a interrompu les travaux, on s'est contenté de ça, puis on a gardé ça. Toujours des raisons de budget ou des changements d'archevêques et d'architectes qui font que... Alors, avez-vous quelques questions sur cette présentation des bâtiments ? Non ? Voilà. Alors, le musée des Beaux-Arts est devenu musée des Beaux-Arts en 1803. En 1803 que les bâtiments ont été réservés au musée des Beaux-Arts. Donc, nous allons entrer dans ce musée. Idéale de conservation. Voilà. Donc vous avez bien retenu les saisies révolutionnaires, les achats, les dons et les dons. Le musée des Beaux-Arts de Tours est un musée municipal maintenant, c'est-à-dire qu'il dispose d'un budget municipal. Tout le personnel du musée est un personnel municipal, sauf le conservateur qui dépend directement de l'État. Donc, un budget municipal, mais avec des subventions en cas de besoin, provenant essentiellement de l'État et également du FRAM, le Fonds Régional d'Acquisition du Musée. Voilà, donc, si jamais il y a, on verra, on a plusieurs exemples, sur le marché, un tableau d'une valeur très importante et que le musée n'a pas les moyens de l'acheter, il peut faire appel au FRAM. D'accord. Le budget d'acquisition varie entre 300 000 et 400 000 francs par an, ce qui est une somme tout à fait relative qui peut être dépensée en un seul tableau ou être répartie sur divers tableaux. Ce budget est consacré à l'acquisition d'œuvres, mais aussi à la restauration de certaines œuvres. Donc on en parlera également, toutes les œuvres, toutes les collections du musée des Beaux-Arts ne sont pas exposées dans leur ensemble. Une bonne partie des collections sont remisées et certains tableaux sont en mauvais état et attendent une restauration. Voilà. Le musée des Beaux-Arts, le musée des Beaux-Arts de Tours, est un des musées les plus visités de la région centre. On estime à peu près le nombre de visiteurs à 50 000 par an. Ça peut varier. S'il y a une exposition temporaire un petit peu attractive, le nombre de visiteurs peut augmenter. Enfin bon, disons 50 000, 60 000 par an. Avez-vous quelques questions sur cette présentation générale ? Alors, la visite... que nous allons faire aujourd'hui ne consiste pas en une présentation exhaustive des collections. D'abord parce que certaines ne sont pas accessibles au public. Il y a au total 2000 tableaux, 1000 à 1500 estampes et environ 200 sculptures. Elles ne sont pas toutes exposées dans les salles accessibles au public, comme je vous l'ai dit. Et d'autre part, le conservateur du musée a décidé que nous ferions ensemble un itinéraire choisi par lui pour présenter certaines collections remarquables sur lesquelles il souhaite que nous insistions. Mais vous avez la possibilité, à la suite de cette visite, de rester dans le musée et de, de regarder, de compléter par vous-même cette visite. Avez-vous quelques questions ? Nous allons poursuivre. Alors, nous sommes ici dans la partie 17e. Si vous vous souvenez, il y a deux bâtiments, un bâtiment 17e, un bâtiment 18e. J'essaierai de vous signaler à chaque fois où nous nous trouvons. Nous sommes donc ici dans une salle 17e. Alors donc avec des tableaux qui datent essentiellement du 17e siècle. On va présenter celui-ci. Ce tableau représente le petit neveu de Richelieu. Ça se passe au XVIIe siècle. L'artiste s'appelle Charles de la Fosse. Alors, on peut tout de suite remarquer, ça va être un petit peu le fil directeur de notre visite, la façon dont on représente les personnages d'une époque. Voilà. Au XVIIe siècle, on représente un personnage important habillé à l'antique. Il faut essayer de souligner cet anachronisme. Le petit neveu de Richelieu ne s'habillait pas comme ça au quotidien. Ça n'était pas du tout la mode de l'époque. Alors peut-être que pour certains c'est évident, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est pour ça que je tiens à le souligner. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques notions sur un petit peu ? Voilà. Là, ce personnage est représenté à l'antique, avec des sandales. Vous voyez qu'il n'y a pas de selle sur le cheval, il y a une peau de bête. Il a une position de gloire. En fait, c'est un tableau qui représente une des victoires qu'il aurait eues dans une quelconque guerre en Italie, enfin, une petite victoire. Là, on peut également souligner une disproportion entre cette gloire et la réalité de la victoire. Le cheval, la posture du cheval est une posture très, très difficile, c'est-à-dire qu'il est en pesade, donc c'est assez remarquable. Là, on peut penser que le peintre avait quand même quelques notions. Enfin, je ne connais rien en équitation, on me l'a dit, mais faire prendre une telle posture à un cheval est extrêmement difficile, et donc représenter cette posture sur un tableau témoigne de quelques connaissances que pouvait avoir le peintre dans le domaine. Voilà. Avez-vous quelques questions ? Est-ce que tout... Oui, à chaque fois, installez-vous comme vous voulez. Hein, vous voyez que ça brille quand on voit. Donc n'hésitez pas à vous déplacer pour mieux apprécier le tableau.